En préalable au message que j'aimerais partager avec vous, j'aimerais que nous puissions lire le psaume 136. Psaume 136. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte, à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui conduit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dura toujours. Qui tua les rois puissants, car sa miséricorde dura toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dura toujours. Et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dura toujours, et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dura toujours, en héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde dura toujours, celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dura toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dura toujours, celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Sa miséricorde dure à toujours. Combien de fois dans ce psaume ce refrain revient? Comme pour marteler que quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes, nous pouvons compter sur la miséricorde de Dieu. Une théologienne nous faisait remarquer que le mot miséricorde, en tout cas dans l'un de ses sens, dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, vient du mot ulterus. L'intérieur de la femme fait appel à l'amour maternel, l'amour qui lie une mère à l'enfant qu'elle porte. Et c'est comme ça que nous sommes liés à Dieu. Dieu se lie à nous. Et justement, quand nous vivons, quand nous sommes dans la joie ou quand nous vivons des épreuves, ce même lien est toujours là présent. Et Dieu, c'est quelque chose que peut-être nous qui sommes des hommes masculins, nous avons du mal à comprendre, mais que certainement celles qui sont mères peuvent comprendre. Ce lien ultérin qui attache une mère à sa progéniture, et qui la fait vibrer. Et des fois, même quand l'enfant n'est pas sur le bon chemin, quelques pères peuvent dire, mais c'est toi qui encourages cet enfant. Il dit ça à la mère. C'est toi qui l'encourages à aller dans ce chemin. Pas que la maman encourage l'enfant, mais ce lien est tellement fort que même quand cet enfant est en déroute, la mère ne cesse de lui porter un amour incroyable. C'est de cela qu'il s'agit, car la miséricorde, notre Dieu, dure à toujours. Il est le Dieu miséricordieux. Pour nous encourager ce matin à ne pas perdre de vue que celui dont nous parlons est celui dont la miséricorde Dieu a toujours. Au fin de ce message, j'aimerais bien que le groupe de louanges nous reprenne le chant. Je n'ai pas retenu le titre, mais le refrain était « Il a changé d'histoire ». Il a changé d'histoire. Donc, à la fin de ce message, si Eric et Stéphane Whitson peuvent reprendre ce chant comme une réponse à ce message tout à l'heure. J'aimerais continuer sur la série et que j'ai introduit la semaine dernière. Être un disciple, c'est suivre l'enseignement de Jésus. Rappelez un passage de ce texte. Vas-y, s'il te plaît. L'un des passages sur lesquels nous nous sommes appuyés dans notre méditation de dimanche dernier est celui de Colossiens, chapitre 2. Et je fais la lecture dans quelques versets qui sont les versets 2, le verset 6 au verset 8. C'est l'apôtre Paul qui, poussé par l'Esprit, parle dans cet épître. « Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble à toute sa richesse, à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. » Verset 6. « Aussi, puisque vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion qui se fonde sur des traditions tout humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. » Voilà l'un des textes de base que nous avons médité le dimanche dernier. Dans la continuité de cette série, être un disciple, c'est suivre l'enseignement de Jésus, j'aimerais, pour nous qui sommes les plus anciens, nous faire revisiter l'histoire de la Bible, la parole de Dieu. Puisque à la fin de ce chapitre que je viens de lire, de ces paragraphes, l'apôtre Paul dit, poussé par l'Esprit, malheureusement, si nous ne continuons pas à nous enraciner profondément dans la parole de Dieu, nous allons nous laisser tromper, nous allons nous laisser séduire dans l'illusion qui est fondée sur les principes humains, sur la tradition humaine. Et que même des fois, le temps faisant son effet, nos compréhensions de l'Écriture, à cause de beaucoup de fausses doctrines et à cause du fait que, malheureusement, avec ce que nous avons vécu avec le Covid, il y a des floraisons de sites, de YouTube, de messages bibliques partout sur la toile. Et que nous tous, nous sommes des chrétiens du 21e siècle et que nous ne pouvons pas nous passer d'aller sur cet espace. Comment nous rassurer que ce que nous recevons là est toujours dans le vrai? J'aimerais faire révision avec nous de ce que c'est que la Bible ce matin. Est-ce que nous comprenons tout le plan global de Dieu qu'il a déployé dans la parole de Dieu? Est-ce que nous continuons à chercher à comprendre ce plan global de Dieu? Est-ce que nous continuons à nous enraciner? Est-ce que nous continuons à nous construire? Est-ce que nous continuons à nous attacher de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on nous a enseigné selon les saintes écritures? Faisons œuvre de pédagogie ce matin. Revisons ensemble. La fondation que nous posons, les fondations que nous posons, c'est celles-là qui vont orienter toute notre vie. C'est une évidence. Mais je me permets de rappeler cette expression qui me semble être à propos pour ce que nous allons faire ce matin. Des fondations que nous allons poser, c'est celles-là qui orientent notre vie. Et il semble que le passage que nous allons lire tout à l'heure dans l'évangile de Luc, ces fondations n'étaient pas aussi claires. Et c'est étonnant parce que les gens dont nous allons parler, c'est des gens qui ont côtoyé Jésus pendant sa vie terrestre. Des fois, nous les chrétiens, on dit, ah, si on avait été au temps de Jésus, on aurait peut-être mieux compris. C'est assez troublant que quelques-uns qui ont côtoyé Jésus de son vivant n'ont pas compris les choses. Nous sommes toujours dans la période de la Pâque. Et j'aimerais lire avec nous Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Faisons la lecture. Luc 24. Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en chemin ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ? » ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. » C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs, les prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'ils ont vu apparaître des anges qui l'ont assuré qu'il était vivant. Verset 24. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas trouvé. Alors Jésus leur dit, verset 25, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devrait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivaient près du village où ils se rendaient. Jésus semblait vouloir continuer sa route, mais il le retint avec une vive insistance en disant, « Reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors, il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà, il avait disparu. Verset 32. Et il se dit l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvaient les 11 réunis avec les compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. « Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon !» Alors les deux disciples racontaient à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Verset 36. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Mais il fut saisi de crainte et de froid, croyant voir un esprit. « Pourquoi êtes-vous troublés ?» leur dit-il. « Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds et reconnaissez que c'est bien moi. » Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai un. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Alors il leur demanda, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Il lui présenta un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea sous leurs yeux. Verset 44. Puis il leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Verset 50, ensuite, il les emmena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie, et là, élevant ses mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se retrouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. Amen. Jusque-là, la parole de Dieu. Ce texte doit nous interpeller ce matin. Être disciple de Jésus, être disciple de Christ, être disciple de Dieu, c'est suivre l'enseignement de Jésus. On se rend bien compte qu'après 3 années passées avec les disciples, à leur enseigner sa parole, à avoir des moments extraordinaires qu'ils ont vécu avec lui, avec des miracles qu'ils n'avaient jamais vus, ils n'avaient quand même pas compris. Ils n'avaient quand même pas compris. C'est étonnant. Ils n'avaient quand même pas compris. Jésus leur apparaît. Ils ne l'ont pas reconnu dans cette soirée-là. 12 kilomètres avec 2 personnes. Et pendant les 12 kilomètres, ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. J'avoue personnellement, je ne sais pas quel sentiment m'animerait si j'étais à leur place. Mais Jésus est un fin pédagogue. Il ne les condamne pas. C'est ça qui est impressionnant chez le Seigneur. Et même, il met cet enseignement en scène. Il leur fait croire qu'il est quelqu'un d'étranger et qu'il ne sait pas ce qui se passe. Au point où les 2 sont étonnés. Es-tu le seul à Jérusalem ? Alors que tous les habitants savent ce qui se passe. Et toi tu viens d'où en fait? Tu es qui? Et il continue le jeu plus loin et dit, je suis désolé, mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils lui disent exactement ce qui s'est passé, sauf la fin. Jésus, dont nous te parlons, était certainement un grand prophète et sa parole avait une telle autorité. Mais il nous a dit qu'il ressusciterait. Voilà, le troisième jour, il n'est pas ressuscité. Donc nous, on est découragés, on est déçus, on s'en va. Et c'est là que Jésus prend le relais pour maintenant placer l'enseignement dont il s'agit. Ce qui est étonnant, c'est que cet enseignement, il nous est dit que Jésus, en partant de la loi de Moïse, en partant des prophètes, en allant jusqu'au psaume, leur enseigne tout ce qui concerne lui, Jésus. Amen. Comprendre les Écritures, la loi, les prophètes, les écrits. Ça veut dire que pour notre bonne compréhension du plan de Dieu, nous devons être des gens, des femmes et des hommes qui comprennent aussi profondément l'Ancien Testament. Il n'est pas ancien parce qu'il est dépassé. Non. Il n'est pas ancien parce qu'il ne faut pas le lire, il ne faut pas le méditer. Non. Il n'est pas ancien parce qu'il faut le garder quelque part à part du nouveau. Non. Il est ancien parce qu'il est avant le nouveau. Il est ancien dans la démarche de Dieu. Il vient avant la venue du Messie. mais il est tout à fait actuel et pertinent. Parce que Jésus, pendant tout son ministère terrestre, la seule parole que ceux à qui il s'adresse avaient, c'était l'Ancien Testament. Il faut vous mettre à l'idée que les chrétiens du premier siècle, quand Jésus parle de la parole de Dieu, c'est l'Ancien Testament dont il parle. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est venu bien après. Le Nouveau Testament est venu pendant que Jésus faisait son ministère et celui des apôtres. Mais ils étaient dans l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que pour leur expliquer les choses, Jésus parle de la loi, des prophètes et des psaumes, qu'on appelle aussi les écrits. Alors, ce matin, faisons un bref retour à ce que nous savons. Vas-y, s'il te plaît. Ce récit d'Emmaüs nous pose des questions. Si Jésus venait à nous rencontrer, heureusement qu'il a déjà fait, hein, pour ceux qui sont sauvés, Jésus nous a rencontrés, gloire à Dieu. Il avait aussi rencontré ceux qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Et pourtant, on peut douter qu'ils étaient nés de nouveau. Parce que s'ils n'avaient pas compris qui était profondément Jésus, comment aurait-il pu être né de nouveau? Quand on fait de la théologie, on dit il y a plusieurs Jésus. Il y a le Jésus historique dont tout le monde parle. Voilà. Beaucoup de gens connaissent ce Jésus historique. Hein. Ils savent que notre calendrier grégorien est attaché. Le point de repère, c'est Jésus-Christ. Avant et après Jésus-Christ. Donc, quelqu'un même d'un 21e siècle qui dit qu'il ne connaît pas Jésus-Christ, ce n'est pas vrai. Puisque le calendrier que nous avons a comme point central l'événement Jésus-Christ. C'est vrai que ça a été institué par un prêtre, mais c'est rentré dans les mœurs. Beaucoup de religions, beaucoup d'historiens, beaucoup d'archéologues, beaucoup de scientifiques connaissent Jésus. Connaissent ce Jésus, un certain prophète juif. Ils connaissent ce Jésus, grand homme de religion, comme Bouddha, comme Mahomet. Ils connaissent ce Jésus comme un grand penseur, un grand philosophe, qui a parlé de l'amour de façon extraordinaire. Donc, il y a plusieurs types de Jésus. Par contre, le Jésus révélé dans les Écritures est celui dont les Écritures parlent depuis les livres de la loi, les livres des prophètes et les livres des psaumes, les écrits. C'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Et c'est ça qui nous intéresse. Celui qu'ils avaient pris pour le Messie, promis, qui devait sauver Israël, n'était plus dans sa tombe au troisième jour après sa mort. Celui qu'ils avaient cru être le Messie. Hein, c'est-à-dire que là, à cet événement-là, ils ont eu même un doute sur qui était Jésus. Puisque dans leur chronologie, dans leur montre de l'époque, les trois jours étaient déjà passés. Et Jésus n'était pas encore ressuscité. Même si au petit matin, des femmes ont dit qu'ils ont vu quelque chose, mais les hommes qui sont partis n'ont pas pu confirmer. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, oui, bon, tu sais, Jésus, souvent nos sœurs, les femmes, elles sont un peu émotives. Donc, elles sont parties au tombeau le matin, elles nous ont dit qu'elles ont vécu quelque chose de spécial. Mais on a envoyé des gens pour vérifier. Les gens qui sont partis n'ont pas pu confirmer. Donc, on ne met pas en doute les paroles de nos sœurs, mais quand même, on n'a pas pu confirmer. Voilà. Donc, on est un peu déçus quand même parce que on avait tellement cru que c'était lui. Tellement cru que c'était lui. Et pendant que Jésus parle, il parle. Après, on comprend, ils disent qu'il y a des choses qui bougent en nous, mais ils n'ont pas encore fait le lien. Comme c'est des disciples proches de lui, ils savent qu'il avait une façon particulière de rompre le pain et de faire la prière. Et c'est à ce moment-là, au moment où ils sont en train de manger, et qu'il fait comme il avait fait d'habitude quand ils étaient en présence de lui, la fraction de pain, Ils disent, mais c'est lui. Et il est déjà parti. Souvent, nous disons dans nos prières spirituelles, Seigneur, révèle-toi à moi, je veux te voir. Moi, je dis souvent, Seigneur, je ne sais pas si tu te révèles, si je vais avoir peur, terrassée de cette révélation extraordinaire, ou si je vais dire, aïe de moi, Satan, parce que je vais peut-être penser que c'est une manifestation diabolique. Je ne sais pas, mais tu me connais. Et tu sais à quel type de révélation tu peux m'exposer. Expose-moi la révélation avec laquelle je serai tranquille. Quand Jean a vu Jésus sur l'île de Patmos, le texte dit qu'il a été littéralement terrifié. Il est tombé comme terrifié à genoux parce que le Jésus que lui connaissait, c'était un petit gars de Palestine. Et le Jésus dont il voyait la révélation, c'était une autre manifestation de ce Jésus. Alléluia. Vas-y, s'il te plaît. Et Jésus te dit, il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Puis, et c'est ça qui me fasse, puis il leur ouvrit l'esprit pour comprendre les Écritures. Puis il leur ouvrit l'esprit pour comprendre les Écritures. Jésus est prétentieux. Jésus dit, depuis les premiers livres de ce que vous appelez la Bible hébraïque, c'est de moi que ces livres parlent. Depuis le début, c'est de moi que ces livres parlent. C'est de moi que ces livres parlent. La loi, les prophètes et les psaumes annonçaient tout Jésus et ses événements. C'est une déclaration puissante, n'est-ce pas? Que toutes les Écritures l'avaient annoncé. Toutes les Écritures. Donc, tout. Il y en a combien de livres dans l'Ancien Testament? 39. C'est ça? 39. OK? Il y en a 27 dans le Nouveau et 39 dans l'Ancien. Il dit tous les 39. Et il y a un accord théologique, il y a un accord religieux sur ces 39 livres. Ces 39 livres sont reconnus à la fois par les Juifs et par les chrétiens. Qu'on soit catholique, protestant, évangélique, nous reconnaissons tous que ces 39 livres sont vraiment paroles de Dieu. Les 39, sans exception. C'est incroyable, il y a un accord mondial sur la pertinence de ces 39 livres. Après, si on nous dit de citer ces 39 livres dans l'ordre que nous les recevons, ça devient un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Si on dit les 5 premiers, on peut essayer. Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome. Ah, on n'est pas bon là. Hein? Non, on n'est pas bon. Bah si, mais... Donc Lévitique vient, Lévitique c'est le dernier. Ah bah voilà, donc on n'est pas bon. Voilà, si on veut prendre la parole, hein, on peut prendre la parole pour regarder. C'est important, c'est des petits détails, mais c'est important pour nous. C'est la parole de Dieu, il nous a été donné comme ça. Nous devons être des experts quand nous parlons de ces choses. Nous devons être des experts quand nous parlons de ces choses. Donc, quand on dit la loi, il s'agit des 5 livres de Moïse. C'est ce qu'on appelle le Pentateuque. Okay? Les 5 livres, les 5 premiers livres. Genèse, Exode, on va faire dans l'ordre. Genèse, Exode. On est bon là? Vous êtes sûr? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. On est bon? Bon. Là, on est bon cette fois-ci. Et dans ces livres, on appelle en général la toile de fond sur laquelle toute l'histoire de notre humanité va être déroulé. C'est un récit comment Dieu écrit l'histoire de son monde créé. C'est Dieu qui écrit l'histoire du monde créé. Du monde que nous connaissons et du monde invisible que nous ne connaissons pas encore. Mais c'est Dieu qui écrit cette histoire. Et le premier chapitre nous montre comment il a dessiné la trame de fond de cette histoire avec le récit de la création. Et le résumé du récit de la création, c'est... C'était très bon. la création. Dieu lui-même, il est content de ce qu'il a créé. Lui-même, il est content. Il est fier de sa création. C'est incroyable. Ce Dieu tout-puissant est fier de ce qu'il a créé. C'était très bon. Parce que Dieu ne se trompe pas. Parce que Dieu est parfait. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. C'est ça la trame de fond. Chapitre 1 et 2 nous montrent par la suite que quelque chose va se passer. Il va y avoir la chute, n'est-ce pas? Cette chute, c'est le péché originel. En Genèse 3, quand nos ancêtres, les premiers, ont désobéi à l'ordre de Dieu, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on a vu les conséquences tout de suite, déjà dans le couple. On a vu les conséquences sur la première génération des enfants, Caïn et Abel. Le mal dans toute son horreur. Et le mal va continuer de se répandre jusqu'à ce que Dieu va faire une ablation. Des fois, il y a des maladies qui atteignent l'être humain et même la science moderne n'a aucune autre solution que de retirer l'organe endommagé pour nous donner un sursis de vie. Et Dieu est obligé, avec tout le mal qu'il voit dans le monde, avec son cœur de père et de mère, d'arracher une partie de sa création par le déluge. La Bible dit que ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu punit sa création. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Ce n'est pas un Dieu, je ne suis pas content aujourd'hui, je punis ma création. C'est toujours avec des tripes qui le remuent, qui le fait. Parce qu'il a créé l'être humain à son image. Il a créé l'être humain à son image. Et Dieu fait ça. Le déluge intervient. Noé et sa famille sont mis de côté. Puis, avec eux, Dieu va repeupler la terre. Genèse chapitre 6, jusqu'au chapitre 8. Et de la suite, on a toute la généalogie des descendants de l'humanité, depuis Adam à Noé. Et on arrive jusqu'à Abraham. Et Abraham va être celui qui va commencer le récit de Dieu à nouveau pour repartir avec le plan de Dieu, la loi de Moïse. Cette trame de fond nous fait entrer dans les cinq livres de Moïse. On dit Moïse parce que nous sommes, nous les évangéliques et protestants, convaincus que l'auteur de ces cinq livres, c'est Moïse. Okay. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et le plan de Dieu va se dérouler là, toujours avec le curseur du Messie. Le Messie, c'est qui? Celui que nous attendions pour faire quoi? Pour totalement bénir toutes les nations de la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Le plan de Dieu, c'est un plan de bénédiction. C'est pour ça qu'il va à chaque fois rappeler, mes projets sont des projets de quoi? De bénédiction et non des projets de malheur. Projet de bénédiction et non pas de malheur. À Abraham, il va dire, de par toi et de ta descendance, je bénirai toutes les nations. Faire du bien aux nations. Faire du bien en restaurant la communion avec Dieu. La première chose. Cette communion est importante. Donc on a les cinq livres. Et ensuite on a les prophètes. Les prophètes, on dit que c'est divisé en deux périodes. La première période, c'est les prophètes qui ont exercé leur ministère, notamment on dit 1, 2 Samuel et 1, 2 Rois. Puisque Samuel est considéré comme le premier vrai porte-parole de Dieu. Un porte-parole, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Et vous savez l'histoire de Samuel. Comment Dieu se choisit ce petit gars d'une mère stérile qui est en proie dans un couple polygame et qui soupire après un enfant et qui dit à Dieu, si tu fais ça, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner à nouveau. Elle appelle Samuel. Et dès son jeune âge, Dieu lui parle dans le temple, alors qu'il est sous la conduite d'un certain Élie. Et Dieu parle à ce petit gars et Dieu le choisit pour être prophète. Donc c'est lui qui va conduire cette période de l'histoire, 1, 2 Samuel, 1, 2 rois. Comme un, on dit c'est une figure du Christ, hein? Tous ces gens-là sont des prototypes de Jésus. Des gens qui parlent non seulement de la part de Dieu, mais qui conduisent le peuple à un moment donné au salut, qui mettent le peuple en sécurité. Ça a été le ministère de Samuel. Il a même restauré des ministères. Parce qu'on dit que les enfants d'Élie étaient quoi? Étaient des mauvais sacrificateurs. Et c'est Samuel qui a restauré le culte pour reconnecter à nouveau le peuple de la façon la plus correcte avec Dieu. Et c'est lui qui va même donner à Dieu l'opportunité de conduire son peuple en installant le premier roi. Mais c'est ce même-là qui va destituer le premier roi quand il ne sera plus en odeur de sainteté. Avec cette phrase que Dieu lui donne, Saül, quand tu étais grand, quand tu étais petit à tes propres yeux, l'Éternel ne t'a-t-il pas élevé, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint. Maintenant que tu es roi, tu fais un peu ce que Dieu veut et tu fais un peu ce que tu veux. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est sur cette phrase que Saül sera déchu de la royauté et David oint pour la suite. Et on a l'histoire de David qui vient par la suite dans 1 de Rois. Et on arrive à ce qu'on appelle les derniers prophètes avec Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie. Tout en sachant que Jérémie, il y a deux tomes. Il y a le prophète lui-même et il y a les lamentations du prophète. Okay? Donc vous avez deux livres qui sont liés à Jérémie. Jérémie et lamentations de Jérémie. Et puis vous avez les 12 petits prophètes. Les 12 petits prophètes, parfois quand j'arrive là, je n'arrive pas à me situer clairement par rapport à qui était avant qui. Mais on a un aide-mémoire, c'est la table des matières. À moins que quelqu'un puisse nous faire la démonstration qui les connaît dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans l'Ancien Testament. Moi, je me suis beaucoup de fois essayé à cet exercice, je me suis beaucoup de fois trompé. Les petits prophètes, c'est Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agée, Zacharie, Malachie. Et toutes ces personnes vont être suscitées par Dieu à un moment donné de l'histoire pour toujours rappeler au peuple l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéir à la parole de Dieu vaut mieux que de dire je sers Dieu. Servir Dieu et obéir la parole de Dieu, c'est deux choses différentes. Quand Saül a échoué, il a dit, mais le peuple a dit qu'ils allaient prendre ces animaux pour te offrir à un culte. Et Samuel dit, non, mais ce n'est pas, ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit qu'il avait besoin d'animaux pour lui offrir un culte. Dieu a donné des consignes très claires et c'est à cela qu'il fallait s'en tenir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la compréhension de la parole de Dieu nous oblige, bien aimés, à marcher d'abord avec l'obéissance à la parole de Dieu. Quand nous lisons ces récits, nous pouvons souvent dire, oh, mais c'était clair ce que Dieu a dit à Saül. Comment il a fait pour ne pas comprendre? Nous, on lit là, on voit comment Dieu avait dit les choses clairement, mais comment ils ont fait pour ne pas obéir à ça alors que c'était clairement dit? Entre ce que nous comprenons, soi-disant clairement, et ce que nous interprétons à un moment donné de notre cheminement, c'est là que le problème intervient. Dans ce récit de la destitution de Saül, il y a quand même, c'est vrai, il y a le peuple, mais il était responsable. Il n'a pas été fidèle en disant au peuple, non. Il a aussi laissé le peuple, puisque finalement, un roi n'a de prestance que par l'honneur que le peuple lui donne. Et c'est là qu'il s'est laissé piéger. C'était un commandement dur que Dieu a donné. Vous savez, la Bible dit que n'oubliez pas, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et quand le temps de jugement de Dieu arrive, c'est terrible, parce que le jugement de Dieu est terrible. C'est pour ça que la Bible dit, aujourd'hui c'est le temps des grâces. Parce que quand le temps de jugement va venir, personne ne pourra dire que Dieu est méchant. Parce que c'est le Dieu juste dont le jugement est terrifiant. Et il avait fait tomber son jugement sur ce peuple en disant, le peuple avec lequel vous allez rentrer en guerre, c'est un peuple que j'ai condamné, mon jugement est déjà tombé sur eux. Et malheureusement, nous, chrétiens du XXIe siècle, on est choqués. Et c'est normal, parce qu'on est dans une période de paix. Mais Dieu dit des choses qui sont fortes qu'on ne comprend pas souvent. Il dit, car je maudis sur combien de générations ? Sur 4 générations. C'est-à-dire, quand ma malédiction, quand mon jugement frappe, il frappe non seulement les coupables, mais va frapper aussi les enfants des coupables, les enfants des enfants des coupables et les enfants des enfants de coupables. 4 générations. Le mal est terrible. C'est-à-dire, si tu commets un impair, les conséquences de cet impair vont se réjaillir. C'est pour ça que Dieu a horreur du mal. Parce qu'il sait que le mal a des conséquences. C'est pour ça que Dieu nous invite, tant qu'on peut ne pas faire le mal, de ne pas le faire. Parce que quelle que soit l'ampleur du mal, il a des conséquences sur nous-mêmes, sur nos enfants, sur les enfants de nos enfants, sur les enfants des enfants de nos enfants. 4 générations. Donc quand Dieu a jugé ce peuple, il a dit, vouez-moi par interdit et les parents, et les enfants, et tous les animaux. Tuez-les tous. C'est terrible, ça ressemble à un génocide dans notre langage d'aujourd'hui. Et c'est peut-être vrai, mais on ne peut pas prendre des mots d'aujourd'hui pour des réalités qui datent d'avant Jésus-Christ. On n'est pas dans la même logique civilisationnelle. Il faut le comprendre. Et ce jugement-là, il est tombé là-bas. Et quand Dieu tombe son jugement, il utilise qui il veut pour l'exécuter. Et il a dit à Saül, c'est toi et le peuple qui allez l'exécuter. Il n'y avait qu'à faire ça. Ce n'était pas la première fois. Et Saül savait qu'il fallait qu'il fasse ça. Mais ils ont liquidé les humains et ils n'ont pas liquidé les animaux. C'est-à-dire qu'ils ont eu le courage d'appliquer le jugement de Dieu sur des êtres humains, mais pour les animaux gras, ils ont dit, ah, ça serait dommage quand même. C'est de belles bêtes, franchement. Ces bêtes-là, on va les offrir à notre Dieu. C'est pour ça que Dieu dit quelque part, vous croyez que je me nourris de graisse d'animaux ? Parce que là aussi, il y avait une pédagogie. Il dit, ce n'est pas les animaux qui m'intéressent en tant que tel. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez qu'un péché coûte la vie d'un être humain, d'un être vivant. Un péché coûte la vie d'un être vivant. Parce que quand vous péchez là, je vous dis, tuez un animal pour que votre péché soit pardonné. Donc ça coûte la vie d'un être vivant. C'est ça que ça veut dire. Et plus gros est ton péché, plus la bête est grosse. Il dit, c'est ça que je veux que vous réfléchissiez à ça. Ce n'est pas les graisses qui brûlent sur le feu là qui m'intéressent. Je ne me nourris pas de ça. Mais c'est la vie que vous avez prise de par le péché que vous avez commis. Donc ils disent, les animaux là sont trop beaux. Donc ils ne tuent pas ces animaux, ils disent, on va les offrir à Dieu. Mais c'est un motif faux, puisqu'ils voulaient en garder aussi pour eux. Et c'est ça que Dieu, au travers de Samuel, dit à Saül. Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimés, les prophètes, pendant cette période de l'histoire, ont rappelé ça à Israël. C'était leur travail. Certains ont été entendus, d'autres ont été maudits par le peuple, détestés par le peuple, lynchés par le peuple, tués par le peuple. Et c'est ça que Jésus va dire. Donc, il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes que Dieu t'envoie. Parce que les Juifs, ils en ont tué quelques-uns des prophètes. On ne sait pas si c'est vrai, mais on dit parfois certains prophètes ont été torturés. On raconte que Isaïe a été scié en deux, qu'on l'a mis dans un tronc de bois et on l'a scié en deux, Isaïe. On n'a pas de traces scripturaires, mais c'est la légende qu'il y a en Israël. Il a été scié en deux. Vous connaissez le sort de Jérémie. Il l'a jeté dans une citerne pendant combien de jours ? Tous ces prophètes disaient une chose. Jérémie lui-même, si vous lisez, c'est impressionnant. Il dit, je te connais, Seigneur. Quand toi, tu nous dis de parler de ta part là, souvent, ce n'est pas simple. Parce que tu nous donnes des paroles qui sont contraires à ce que tout le peuple croit. Tu sais qu'aujourd'hui, le roi, il a des prophètes qui lui disent tout ce qu'il veut entendre. Et moi, là, tu veux me choisir pour lui dire le contraire. Est-ce que tu peux choisir quelqu'un d'autre? Parce que ça lui avait déjà coûté sa relation sentimentale. Il a dû faire... C'est difficile d'être prophète de Dieu à cette période-là. C'était des gens qui disaient des choses qui étaient à contre-courant, mais qui rappelaient les écrits, qui rappelaient la loi de Dieu. C'est ça un prophète, quelqu'un qui est fidèle. Ce n'est pas quelqu'un qui a une vision, qui a un rêve. C'est quelqu'un qui est fidèle à ce que Dieu a dit dans sa parole. Et c'était le travail des prophètes, des grands et des petits. Bref, ils n'ont cessé de dire, malgré tout, Dieu va nous envoyer un Messie. Et le plus célèbre qu'il a dit, c'est Isaïe. Et enfin, il y a les écrits. Les écrits, on rapporte ce thème aussi au thème des psaumes. Hein, parce que les psaumes, le livre est le premier et le plus gros livre de l'ensemble des écrits. Hein, quand on prend l'ensemble des écrits, il y a combien de psaumes? Il y a 150. C'est vrai, Rachel? 150. Bon, on est d'accord. 150 psaumes. Et en fonction de la taille des psaumes, vous voyez que ce n'est pas pareil. Le psaume 119, c'est un livre dans un livre lui-même. Le psaume 119, c'est un livre dans un livre. C'est le plus long chapitre de toute la Bible. Le psaume 119, c'est le plus long chapitre de toute la Bible. Donc, c'est déjà un recueil de livres, au cœur du recueil de livres que sont les écrits. Reviens, s'il te plaît. Voilà. Et on a tous les petits livres dans ce contexte poétique. Il y en a 5, on divise ça comme ça, et il y a tous les écrits qui sont aussi les proverbes, Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste. Et lequel aussi on lit souvent avec le livre de Ruth. On appelle ça les écrits. Donc Jésus dit, tous ces livres-là, ils parlent de moi. Ils ont annoncé ce que je vous dis là maintenant. Donc, mon histoire ne commence pas au premier siècle de votre ère avec ma naissance. Mon histoire, elle commence bien avant la fondation du monde. Mais mon histoire humaine, elle commence depuis que vous avez été créés, Adam et Ève. Voilà le récit, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il nous faut conclure ce matin? Le cœur du plan de Dieu, son dessein éternel dans lequel il se constitue un peuple mis à part pour l'éternité, c'est la parole de Dieu. Il leur donne pour mission d'être les témoins de son dessein et les munis d'un livre contenant l'essentiel des notions et conseils dont ils ont besoin pour vraiment être en mesure de l'assister dans l'accomplissement de son dessein, lequel manifeste sa sagesse aux puissances et aux autorités célestes. Et on a les écrits avant Christ et les écrits après Christ. Et bien c'est le premier paragraphe de cette citation qui me parle. La deuxième phrase. Il leur donne pour mission d'être les témoins de son dessein et les munis d'un livre contenant l'essentiel des notions et conseils dont ils ont besoin pour vraiment être en mesure de l'assister. Pour vraiment être en mesure d'assister qui? D'assister Dieu. Dans l'accomplissement de son dessein. C'est-à-dire que Dieu nous a choisis comme ses assistants pour que son plan s'accomplisse. Dieu nous a choisis comme ses assistants. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? De par toi et ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. Bien-aimé, le plan de Dieu, c'est que toi et moi, chrétiens, chrétiennes, Église de Dieu, nous soyons des assistants de Dieu pour qu'il accomplisse son dessein pour sa création. C'est une mission essentielle.
C'est pour cela qu'il nous faut toujours sonder les Écritures, la connaître en profondeur, que nous soyons enracinés. Que nous soyons attachés fermement et profondément à la foi qui nous a été enseignée depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. J'espère vous avoir donné envie d'aller revisiter pour les plus anciens la parole dans l'Ancien Testament. Relis ça avec le regard qu'a fait Jésus. On dit, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Ma prière ce matin, que Dieu nous ouvre l'esprit pour que nous comprenions les Écritures et que pour que nous puissions être encore et encore et encore et encore convaincus que Dieu nous prend comme ses assistants pour accomplir son dessein de bénir toutes les nations de la terre. Je veux être une source de bénédiction. Je prie que tu sois une source de bénédiction. Mais ce n'est pas facile d'être une source de bénédiction. Ça a coûté la vie de Jésus. Ça a coûté l'incompréhension. Ça a coûté la trahison de ses meilleurs coéquipiers. Ça l'a quelquefois isolé tout seul. Mais il a toujours eu une parole, pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Il dit, car ma nourriture, c'est de faire quoi? C'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On va chanter pour terminer ce message avec le groupe de louanges. Il a changé l'histoire, il a changé notre histoire. Alléluia. Il a changé l'histoire, il a changé notre histoire.